Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio. Une radio pas comme les autres.
Julia Pagé, Rémi Villemur, mes hommages et bonjour.
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 Écoutez, on écoutait un peu ce qui se disait là, surtout du côté de Rémi en fin de semaine, du côté des du Conseil des jeunes du Parti libéral du Québec. Oui, hein, il y a des ailes jeunesse, c'est à peu près tous les partis. Ils étaient rassemblés en fin de semaine et ils ont dit, lors de leur conseil, plusieurs fois, ont reproché à François Legault, au gouvernement, de diviser les Québécois. Ça, c'est un terme qui revient pas mal souvent, je trouve. C'est pas juste les jeunes libéraux qui en parlent, qui disent on veut diviser. Monsieur Legault est là pour diviser le Québec au lieu d'unir, diviser. Rémi, c'est-tu possible de faire de la politique sans diviser au final, dans le fond?
Ben, non seulement je pense que c'est impossible de le faire, je pense que Dominique Anglade le sait aussi que c'est impossible de le faire et qu'elle essaye de convaincre un certain nombre de personnes, mais c'est plutôt raté. Faire de la politique, c'est diviser, d'accord? On essaie idéalement d'unir le plus de gens possible, et une bonne façon de déterminer si les gens sont unis derrière un gouvernement, c'est de regarder les sondages, c'est de se fier aux résultats aux élections. Et là, ben, on se dirige vers des élections, on a des sondages, on a des taux de satisfaction, et à vrai dire, le gouvernement Legault ne divise pas les Québécois, il unit les Québécois. Il y aura toujours une grande proportion de gens qui vont être en désaccord, par exemple, avec la loi 21, avec la loi 96. Sauf que Mme Anglade, quand elle dit que les Québécois sont divisés, elle, ce qu'elle voudrait, c'est que la loi 96 soit abolie, que la loi 21 soit abolie. Donc, il y aurait, en fait, le pourcentage de gens insatisfaits augmenterait. Donc, on aurait 60 % de gens insatisfaits plutôt que 60 % de gens satisfaits. Donc, elle diviserait encore davantage les Québécois si on écoutait ce qu'elle a à nous dire. Donc, franchement, c'est un peu naïf si c'est pas une tentative un peu malhonnête de convaincre l'électorat. Et je trouve que ça prend quand même beaucoup de culot aussi de la part d'une chef du Parti libéral quand on sait que Jean Charest est probablement derrière la plus grande crise sociale de l'histoire récente du Québec.
Julia? Possible de faire de la politique sans diviser?
Non, c'est effectivement très difficile. Ce que Mme Anglade a voulu dire, ça peut être diviser les électeurs, mais ça pourrait aussi vouloir dire de ne pas réussir à inclure tous les Québécois, mention spéciale aux immigrants ici. C'est sûr que c'est pas la critique qui frappe le plus fort, parce que bon, dans une démocratie, c'est rare qu'un parti l'emporte avec 80 % des voix. C'est presque impossible. Donc, il y a toujours une large partie de la population qui n'a pas voté pour le parti au pouvoir. Donc, ça crée nécessairement des tensions, mais c'est pas négatif. Au contraire, c'est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. Ceci étant dit, il y a des partis, il y a des politiciens plus divisifs que d'autres. Et sans que Legault soit nécessairement à l'extrême, certaines de ses positions, notamment sur des questions de langue, d'immigration, de racisme, de diversité, peuvent être particulièrement divisives. Et j'ai l'impression, et c'est une impression qui est appuyée par les derniers sondages, que la division que Legault opère, consciemment ou non, en études de génération, la politique de Legault a parfois du mal, je trouve, à s'adresser à la réalité des plus jeunes qui, contrairement aux gens d'une ou de deux générations au-dessus d'eux, ont grandi avec des immigrants à l'école, ont des immigrants dans leur groupe d'amis première, deuxième, troisième génération d'immigrants. Pour eux, c'est complètement banal. Et sur des enjeux comme la loi 21, par exemple, c'est pas négligeable de considérer la corrélation entre le fait d'avoir côtoyé ou non des femmes voilées, des femmes musulmanes et l'appui à la loi, par exemple. Donc, il y a des générations difficilement réconciliables et peut-être que Legault a trop choisi son camp. En ce sens, on peut considérer qu'il est divisif, mais c'est vrai que son appui est très, très fort. Alors, Mme Anglade devrait peut-être choisir un autre angle pour l'attaquer.
C'est sûr, c'est peut-être pas le meilleur des angles, mais comme tu le soulèves, Julia, il y a peut-être des vérités quand même dans tout ça. Moi, je soulève tout de même que François Legault a décidé là sciemment de ne pas participer au débat en anglais, par exemple, au débat des chefs en anglais qui va avoir lieu pendant la campagne, alors qu'il y a, qu'on le veuille ou non, qu'on apprécie ou non, il y a une forte minorité anglophone ici au Québec. Est-ce que c'est pas ça un exemple de division, par exemple, Rémi?
Non, parce que, voyez-vous, il y a 30% de francophones au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de débat en français. Il y a 10%, et en fait, il y a moins de 10% d'anglophones au Québec, et il y a eu un débat en français qui avait été proposé par Jean-François Lisée à l'époque qu'il était chef du Parti québécois. C'était une très mauvaise idée. Je pense que lui, il voulait se démarquer parce qu'il parlait très bien l'anglais. François Legault a eu totalement raison. Les francophones sont super maltraités à l'intérieur du Canada, et les anglophones sont constituent, à mon avis, la minorité la mieux traitée au monde. Donc, pas de débat en anglais, c'est totalement normal quand on considère que les Acadiens n'ont pas de débat en anglais, en français, que les Franco-Ontariens n'ont pas de débat en français, que les Franco-Albertains n'ont pas de débat en français non plus.
Julia?
Ben moi, je pense qu'au Nouveau-Brunswick, il devrait avoir un débat en français, et donc qu'au Québec, on pourrait... Non, mais justement, on pourrait vraiment considérer qu'il devrait en avoir pour inclure tout le monde, comme on pourrait considérer qu'il devrait en avoir un en anglais au Québec pour inclure tout le monde.
Mais il y en a un, c'est juste qu'il va pas, François Legault.
En fait, oui, c'est ça, qu'il faudrait l'encourager, ou peut-être pas le boycotter, ou dans tous les cas, le voir d'un autre œil, parce que la minorité anglophone historique, elle existe, et ça, c'est une part de l'électorat anglophone qui est particulière. Mais il y a aussi les immigrants qui parlent anglais. Il y a plusieurs types d'anglophones au Québec. Je pense pas que ce soit aussi nécessaire que certains le prétendent d'avoir un débat en anglais, mais je trouve que c'est vraiment pas fou. Puis pourquoi pas inclure le plus de gens possible dans l'exercice démocratique? Je vois pas de mal à ça.
L'exercice démocratique, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, hein, être capable d'aller parler à tout le monde, ou presque, on assume que presque tout le monde au Québec va parler au moins l'anglais, là, si c'est pas le français. C'est sûr que ça peut aller rejoindre des communautés culturelles. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi?
La seule langue officielle du Québec, c'est le français. Donc, je vois pas pourquoi un État tiendrait un débat dans une autre langue qui n'est pas sa langue officielle. Je donne l'exemple du Nouveau-Brunswick parce que c'est la seule province du Canada où il y a deux langues officielles, le français et l'anglais, et il n'y a pas de débat en français qui est la langue officielle du Nouveau-Brunswick, alors qu'au Québec, il y a une seule langue officielle et c'est le français. Donc, faut pas se surprendre qu'il n'y ait pas de débat en anglais, c'est simplement normal.
Non, ça on peut bien le comprendre. Question pour vous deux, comme ça que je lance en cette belle journée. Est-ce que vous avez des vacances de prévues, vous, bientôt?
Oh boy, pas vraiment.
Rémi?
Ben moi, je suis censé être en vacances, mais j'ai mes merveilleuses chroniques tous les jours
voilà.
Qui me gardent actif, mais c'est un beau cadeau. Que cet été m'a offert.
Je vous pose la question parce que à la fin de cette saison-ci, j'aurai moi-même là droit à quelques petites vacances et je me pose la question, comme beaucoup, je pense, de gens se la posent à l'approche de leurs vacances ou pendant même leurs vacances. Comment on fait pour décrocher? Comment on fait pour décrocher au niveau numérique, hein, d'être constamment branché, de devoir répondre à tous ces messages, ces courriels, ces appels, ces textos? Comment on fait pour décrocher? Julia, c'est-tu possible encore en 2022 de décrocher un peu pendant nos vacances?
Toute une question pour un petit lundi matin. L'addiction au téléphone, parce que c'est vraiment ça, là, c'est une addiction. C'est tout un dossier parce que c'est pas une addiction comme les autres. Si on prend l'exemple de la drogue, ben quelqu'un qui est addict à une drogue finit par être marginalisé d'une certaine façon, exclu de la société parce que plus capable de travailler, perd des amis, de la famille, perd de l'argent. Mais ceux qui sont addicts à leur cellulaire sont pas marginalisés. Au contraire, ils sont souvent récompensés parce qu'ils répondent rapidement à leur courriel, au travail, ils sont à l'affût de tout ce qui se passe, des tendances nouvelles, ils ont un large réseau. Et c'est plutôt au moment de se déconnecter qu'ils se sentent marginalisés, qu'ils ont l'impression de manquer quelque chose, de pas être dans le coup. Puis c'est ce qui fait que c'est une addiction à ce point puissante. Bon, heureusement, ça n'a pas l'effet du LSD, là, mais sur la santé mentale, on le dit et redit, les effets peuvent être vraiment importants. Donc, je sais pas vraiment c'est quoi la solution, parce que ce fameux FOMO, là, le fear of missing out, toujours avoir l'impression qu'on manque quelque chose, c'est très fort. Même en vacances, on sait que le monde continue à tourner puis on a envie de regarder notre cellulaire. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à décrocher. On a parlé de livres il y a quelques semaines. Pour moi, ça, c'est une bonne solution. Mais je pense aussi qu'il faut commencer jeune, en parler dans les écoles, apprendre aux jeunes à se déconnecter. Parce que, je sais pas s'il est trop tard, mais c'est de plus en plus difficile de décrocher le plus longtemps on a eu cette addiction.
toi, Rémi, personne à qui la technologie fait souvent faire de l'urticaire. Est-ce que tu as des trucs pour nos auditeurs, nos auditrices pour décrocher ou toi-même, tu es au final esclave de ton ordinateur de poche?
Moi, j'ai jamais fait la leçon à personne parce que tout est dans la théorie en ce qui me concerne. dans la pratique, je suis aussi esclave que chacun d'entre vous. Je pense qu'il faut essayer de poser la question en inversant un peu les mots dans la phrase. Comment décrocher à l'ère du numérique? Ben, il faut décrocher du numérique, tout simplement. Donc, il faut faire l'effort surhumain qui consiste à laisser son téléphone à la maison et à partir se promener. À se laisser abandonner au merveilleux hasard que la vie nous met parfois sur notre chemin. Mais il faut aussi rester réaliste. Pour réussir à décrocher vraiment, ça prend trois choses. Ça prend du temps, ça prend un espace, ça prend de la liberté. Il y a un psychologue qui était en entrevue à TVA samedi, Paul Langevin, qui disait c'est démontré par certaines études que c'est impossible de décrocher avant le 8e jour de vacances qu'on se donne. Donc, la plupart des gens au Québec ont une semaine de vacances, là. Donc, ils n'y parviennent pas, en fait, en se donnant une semaine de vacances. À la 7e journée, ils commencent à décrocher puis il faut qu'ils aillent travailler. Donc, le temps, c'est très important. C'est une dimension incontestable. Là-dedans, l'espace aussi, hein. C'est difficile de décrocher quand notre milieu de travail, c'est à la maison, hein. Parce que prendre congé à la maison aujourd'hui, c'est comme prendre congé au bureau, finalement. Donc, l'espace de quitter la maison, d'aller se promener. Puis la liberté, ben ça, c'est peut-être la chose la plus importante des trois. Et évidemment, on se comptera pas de menterie, là. La liberté financière, c'est important. De pouvoir prendre sa voiture, quitter la ville, aller à l'hôtel, s'offrir des soins, c'est pas offert à tout le monde. Mais c'est pour ça que dans la liberté, il y a aussi certaines décisions qu'on peut prendre, qui sont difficiles à prendre, puis ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire décrocher du numérique, abandonner l'ordinateur, abandonner le téléphone, aller se promener dehors, se promener comme à l'ancienne.
Aller faire la bonne vieille promenade. On vous entend, ouais. Puis je pense que c'est un sujet dont on peut se donner la mission de se donner des trucs, hein, de s'en trouver d'ici la fin de l'été. En fait, je vous mandate de me trouver des trucs de déconnexion d'ici mes vacances. J'en ai besoin de manière urgente. Rémi, Julia, merci à vous deux. On se reparle demain.
Merci.
À demain.